Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Air d'Ivoire pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc en d'Ivoire. L'émission est aussi mise en podcast sur le site de Air d'Ivoire, www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de Mathieu Mounier. Bonjour.
Bonjour.
Mathieu Mounier, vous êtes ici pour nous parler de Bourlingue et Pacotille, une association qui s'est mise sur l'importation par navigation à voile.
Alors elle émane déjà de notre expérience parce que l'association est issue du collectif Festinalente qui faisait déjà des rencontres de spectacles à la voile. Et à un moment donné, le Festinalente s'est arrêté par ce qu'on a appelé la crise Covid. Là. Et il y a eu l'émergence de ce qu'ils appellent le côté essentiel, c'est-à-dire manger, se nourrir. Bon, ça, on était concernés. Et on s'est dit, bon, bah, on ne va pas arrêter là les spectacles et on va faire quelque chose de dit essentiel et après on fera des spectacles. Donc l'idée, c'est de ramener des marchandises à la voile et au retour du bateau au port, faire une fête, présentation des produits ramenés et spectacles, concerts et art vivant.
Et donc, ce projet, c'est avant tout une importation par navigation, par voile. Et d'où vous est venue cette idée ?
Ben justement, l'idée est venue du fait qu'il y avait énormément de voiliers, de bateaux qui n'étaient pas du tout utilisés dans les ports, qui croupissent et qui ne sont pas recyclés, ne serait-ce que utilisés. Et donc, on s'est dit... quitte à être utile, la plaisance, c'est sympa, mais quitte à faire quelque chose d'utile, on va ramener des produits qu'on aime bien. C'est quand même du transport lent, donc on prend des produits qui sont pas périssables, pas de fruits, pas de légumes, pas de viande. Ou alors il faudrait des bateaux, adaptés. Et on sait, donc l'idée nous est venue comme ça, d'utiliser ces bateaux qui ne naviguaient pas. Voilà, donc on propose à tous les bateaux qui sont au port et qui ont envie d'être utilisés, de pouvoir être empruntés par l'association qui charge son épicerie de Sicile, Corse, Sardaigne...
Vous-même, à l'origine, êtes navigateur, vous avez une expérience de navigation, et est-ce que c'est aussi, comme vous disiez, issu de ce festival NT, je crois, c'est ça ?
Festinalente.
Festinalente.
Festinalente, ça veut dire « hâte-toi lentement voilà. ».
Merci. Et donc, vous êtes concerté avec plusieurs navigateurs pour promouvoir cette idée et puis de mettre en place ce réseau. D'ailleurs, vous vous cantonnez principalement sur la Méditerranée à l'heure actuelle ?
Alors, le fret à la voile existe déjà depuis un petit moment en Atlantique et en transatlantique, notamment pour amener du café et du rhum. Et en Méditerranée, il y a encore beaucoup de bateaux, mais pas beaucoup de fret à la voile. Donc moi, j'ai toujours navigué, j'ai toujours eu, depuis ma petite enfance, de l'optimiste jusqu'à maintenant, où je partage aussi un bateau avec un des fondateurs de l'association. Et cette passion, on va dire, pour la mer, cette espèce de zone de liberté qui est complètement décalée du temps que l'on vit à terre, en fait, avec ses impératifs, cette rapidité, cette vitesse, en fait. C'est la vitesse là que l'on défie. Et ce ralentissement nécessaire aussi qui est... qui doit revenir en fait à terre, ben nous on l'amène par la mer. C'est-à-dire que ce temps où on met pour faire un kilomètre, des fois on peut mettre une heure, même moins. Ça, c'est quelque chose qu'on peut défendre aussi à travers notre inefficacité. Voilà. Sauf qu'on est rappelé aussi à l'ordre par des questions commerciales, puisqu'on s'appelle quand même Bourlingue et Pacotille. La bourlingue, c'est donc remonter contre le vent, donc on en veut. On veut quand même aller au-delà du vent. C'est ce que permettent les bateaux quand le vent est pas trop fort. Et quand il y en a aussi, parce qu'on est soumis à tous les aléas climatiques de la météo. Et la pacotille, c'est ce que le marin peut ramener chez lui, enfin, dans son... qui peut revendre, on va dire, sur le...
Dans son cabas.
Voilà, dans son cabas. Et une fois revenu à terre. Donc ça reste pour l'instant un projet en développement. Ça fait pas longtemps, depuis 2021 en gros que ça existe. Et on essaye de le développer. Le côté associatif, ce sera tout l'aspect culturel. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, on tient à ce qu'il reste des spectacles à l'arrivée et qu'il y ait des échanges culturels. Donc, à travers les chants, la musique, les arts, les carnets de voyage, etc. Mais donc cet échange culturel soit ponctué aussi d'échanges de marchandises, de bonnes choses, voilà, parce qu'on aime bien manger, on est aussi des bons vivants.
D'ailleurs, c'est la plupart de vos propositions sont d'ordre alimentaire.
Tout à fait. Bon, la plupart, en effet, c'est vrai que c'est une épicerie... itinérante. Les petits bateaux ne permettent pas de ramener des voitures et ce serait pas cohérent. Mais non, on ramène des bonnes choses, du vin, des tomates séchées, des câpres, de l'huile d'olive, des choses qui de toute façon sont importées par les magasins ici. Voilà.
Comment s'opère justement cette prise de contact avec les producteurs chez lesquels vous allez vous fournir Est-ce qu'il existe un réseau justement qui vous permette d'établir, ou alors vous passez par la filière classique, économique, en vous documentant, en vous renseignant sur ce qui existe?
Alors, on se documente, non. Pour ce qui est du réseau des producteurs, on a notre propre réseau qu'on se fait petit à petit. C'est vraiment des rencontres. C'est vraiment sur le... Par exemple, le miel, j'avais navigué avec un apiculteur en Bretagne et on se retrouve en Méditerranée à récupérer son miel qui vient de Corse. C'est des rencontres et surtout, c'est de la recherche sur place. Une fois qu'on est sur place et même en amont, on essaie de trouver des producteurs qui ont une démarche éthique, évidemment en biologique, avec le label ou pas, mais avec qui on s'entend bien et au-delà de ce qu'il fait, avec qui on s'entend bien tout simplement, humainement, avec quelque chose qui passe, quoi.
L'équitabilité est aussi, vous prenez en compte aussi cet aspect, que tout le monde puisse être content de son implication.
Complètement. On ne va jamais négocier les prix chez le producteur. C'est lui qui fait son offre. Et après, c'est ça qui nous rend pas forcément commercialement ultra compétitifs. Mais bon, je crois que c'est pas le domaine de cette association. D'ailleurs, c'est une association qui cherche quand même à avoir des prix qui ne plument pas celui qui sera au bout de la chaîne, c'est-à-dire le consommateur ou celui qui va acheter des produits sur les marchés. On développe là, on a envie de développer un projet avec un bateau qui peut prendre plus de marchandises, parce qu'au final, c'est ça, si on se retrouve avec des cargos gigantesques, c'est que plus on a un gros bateau, et moins la marchandise sera chère à l'arrivée. Donc l'idée, ce serait d'avoir des plus gros bateaux qui puissent faire ces échanges-là en Méditerranée.
Voilà, vous mettez en avant l'exemple d'une goélette qui est en cours de restauration à l'heure actuelle, je crois, et qui fait 23 mètres hein, de long. Ça indique d'ailleurs 20 tonnes, ça permet de transporter 20 tonnes et d'avoir 12 personnes. Donc c'est un investissement conséquent pour ce type d'importation.
Oui, c'est sûr que là, on ne pourra pas rester sous statut associatif par rapport à la restauration de ce bateau qui s'appelle La Bourlingue, qui a été sauvé, on va dire, de la casse à ferraille. Parce que c'était un beau plan, un beau chantier qui méritait de naviguer. Et donc, sur le coup de cœur, on s'est dit, allez, on prend ce bateau. 20 tonnes de marchandises, ça pourra nous faire aussi évoluer. Par contre, on est en train, là, en ce moment, de se restructurer, de restructurer l'association pour passer en SIC et en société coopérative pour pouvoir, on va dire, avoir les épaules pour pouvoir porter ce projet-là.
Il y a ce périple à travers la Méditerranée. Peut-on peut-être citer quelques pays qui sont visités et chez lesquels vous fournissez ?
Le premier voyage, c'était la Tunisie. Donc c'était en pleine crise sanitaire paranoïaque où il était très 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 difficile où que ce soit d'aller. On se rend compte qu'en bateau, on est encore plus vulnérable que sur terre finalement. Et donc ce premier voyage a été une expérience. On avait des producteurs qu'on avait rencontrés au préalable et qui jouaient le jeu en tout cas. Sauf que les autorités maritimes, lorsqu'on est un bateau de plaisance et qu'on veut faire du commerce, il y a quelque chose qui coince au niveau des douanes. Donc ça, c'était quand même très très difficile. Les autres voyages se sont faits au sein de l'Union européenne, donc ça c'est plus simple. En Sicile, en Corse, en Sardaigne. Et là, le bateau, là, il est rentré la semaine dernière, par exemple, de Sicile, pour proposer les produits donc, que je vais montrer et proposer à la vente sur le marché de Die ce samedi.
Voilà, ce samedi et celui du 17 également. Hein.
Tout à fait.
Il y a ces prises de production, son transport par voile, donc. Comment se passe justement un voyage? Combien de temps prend ce périple?
Alors, par exemple, pour aller en Corse, il y a un prochain voyage qui s'organise, je prends 2 semaines. Sachant que de port à port, on peut mettre 24 heures. Voilà, si le vent est bon. Ça peut aller très vite, mais la voile, c'est lent. Il y a un proverbe qui dit que c'est le moyen le plus lent, inconfortable et le plus cher pour aller d'un point A où on était bien, à un point B où on n'a rien à faire. Donc des fois, on s'en rend compte quand vraiment on est dans du sale temps. Et là, donc on se dit il y a quand même un sens à ce qu'on fait, même si c'est difficile. C'est tout ce qu'on vit entre le point A et le point B, c'est-à-dire ces moments de navigation, que ce soit de jour ou de nuit, où de toute façon, il faut tenir la barre, il faut être, on est au milieu des éléments, on rencontre des choses qu'on ne voit jamais. Aussi, on est face à une certaine forme de réalité du fret à la voile, puisque on voit les énormes cargos qu'il faut éviter, on se faufile un peu comme on peut. Et donc ça, on sait pourquoi on le fait, parce qu'aussi, on le fait découvrir à d'autres personnes qui ont envie de naviguer, qui ne connaissent pas. Et c'est aussi cet aspect-là de l'association qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la voile. Et vu que nous, on fait le lien entre l'artistique et la navigation et ces échanges-là, eh bien, on invite aussi beaucoup d'artistes à venir partager ces moments assez intenses en mer. Et comme ça, il y a une forme d'échange spontané qui arrive quand on arrive chez les producteurs, où on sort les instruments, on commence à chanter et ça le fait.
Une vie de marin.
Une vie de chien.
Une vie de chien. Peut-être que ça serait une illustration possible avec une chanson.
Une chanson. Alors moi, c'est vrai que la dernière fois, un moment très très fort qui a eu lieu. Moi, je n'ai pas beaucoup navigué, j'ai juste fait un échange entre la Corse et le continent, où on a ramené du miel et du vin. Et c'était un moment où on écoutait les tétraides, oui. Avec notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Cette chanson-là, ouais, on l'a écoutée à bord et là on était la voile entre amis, c'est ces espèces de parenthèses de liberté qu'on recherche, qui sont rares.
À un enfant, le frisson devant la beauté, tout cela se déroule totalement en dehors du temps, car peu importe que je rencontre la beauté, l'espace d'une seconde ou l'espace de 100 ans, non seulement la félicité se situe en marge du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. Je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps et par la même occasion celui des performances que l'on exige de moi. Ma vie n'est pas quelque chose que l'on doive mesurer. Ni le saut du cabri, ni le lever du soleil ne sont des performances. Une vie humaine n'est pas non plus une performance, mais quelque chose qui grandit et cherche à atteindre la perfection. Et ce qui est parfait n'accomplit pas de performance. Ce qui est parfait œuvre en état de repos. Il est absurde de prétendre que la mer soit faite pour porter des armadas et des dauphins. Certes, elle le fait, mais en conservant sa liberté. Il est également absurde de prétendre que l'homme soit fait pour autre chose que pour vivre. Certes, il approvisionne des machines et il écrit des livres, mais il pourrait tout aussi bien faire autre chose. L'important est qu'il fasse ce qu'il fait en toute liberté et en pleine conscience de ce que, comme tout autre détail de la création, il est une fin en soi. Il repose en lui-même comme une pierre sur le sable. Je peux même m'affranchir du pouvoir de la mort. Il est vrai que je ne peux me libérer de l'idée que la mort marche sur mes talons et encore moins nier sa réalité. Mais je peux réduire à néant la menace qu'elle constitue en me dispensant d'accrocher ma vie à des points d'appui aussi précaires que le temps et la gloire. Par contre, il n'est pas en mon pouvoir de rester perpétuellement tourné vers la mer et de comparer sa liberté avec la mienne. Le moment arrivera où je devrais me retourner vers la terre et faire face aux organisateurs de l'oppression dont je suis victime. Ce que je serai alors contraint de reconnaître, c'est que l'homme a donné à sa vie des formes qui, au moins en apparence, sont plus fortes que lui. Même avec ma liberté toute récente, je ne puis les briser. Je ne puis que soupirer sous leur poids. Par contre, parmi les exigences qui pèsent sur l'homme, je peux voir lesquelles sont absurdes et lesquelles sont inéluctables. Selon moi, une sorte de liberté est perdue pour toujours ou pour longtemps. C'est la liberté qui vient de la capacité de posséder son propre élément. Le poisson possède le sien, de même que l'oiseau et que l'animal terrestre. Taureau est encore la forêt de Walden. Mais où est maintenant la forêt où l'être humain puisse prouver qu'il est possible de vivre en liberté en dehors des formes figées de la société? je veux vivre libre, il faut pour l'instant que je le fasse à l'intérieur de ces formes. Le monde est donc plus fort que moi. À son pouvoir, je n'ai rien à opposer que moi-même. Mais d'un autre côté, c'est considérable. Car tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance. Et mon pouvoir est redoutable. Tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde. Car celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Mais ma puissance ne connaîtra plus de bornes le jour où je n'aurai plus que mon silence pour défendre mon inviolabilité. Car aucune hache ne peut avoir de prise sur le silence vivant. Telle est ma seule consolation.
À l'heure actuelle, les tailles de vos navires sont de quelle longueur environ ?
Pour l'instant, on a des voiliers de entre 12 et 14 mètres. Et les occupations, elles sont assez simples, puisqu'il faut, s'occuper de la navigation. Et tout ce qu'on fait à bord, surtout quand il y a du temps un petit peu difficile, ça prend une énergie monstre. Et on s'occupe donc de faire à manger, de surveiller les voiles, de les changer selon le vent qui change aussi. Donc, et surtout de se tourner. Voilà, on a des équipes de quart qui se tournent pour pouvoir être opérationnelles 24 heures sur 24.
Et au niveau des vents, justement, c'est une question un peu naïve, mais est-ce qu'il existe des vents qui sont d'une constance, qui permettent justement la navigation ?
Alors, pour partir de Marseille, hein, c'est souvent de cet endroit qu'on part vers le sud. C'est le Mistral qui nous donne un petit coup de pied aux fesses pour partir et nous dire bah là, tu peux y aller, mais tu ne peux pas revenir tout de suite. Parce que quand on a 20-30 nœuds dans l'arrière, il faut, on y va, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et des fois, on a de la chance et on a du vent arrière aussi. C'est quand même l'allure la plus facile en voilier pour avancer. Et sinon, bah, on bourlingue et puis on remonte au vent. Et puis de toute façon, on a des impératifs. Hein, il faut arriver à... On a d'autres choses à faire aussi, puisque c'est quand même une association bénévole. On n'a pas de... On n'est pas... Il n'y a personne qui est salarié encore dans l'association. Bientôt une stagiaire, mais voilà. On est en émergence. Voilà.
Et puis, il y a aussi l'arrivée sur le territoire, hein, la douane, les formalités administratives. Ça, c'est aussi un travail dans cette structure.
À partir du moment où on est dans l'Union européenne, les douanes n'interviennent pas. On a juste quelques taxes à... Par exemple, il y a une législation pour le vin un peu particulière en Corse, mais sinon, tout ce qui est dans l'Union européenne, il n'y a pas de contraintes douanières. On a juste, nous, cette espèce de chose bancale où on est de la plaisance, mais on fait du commerce. Mais à l'échelle de notre commerce, c'est absolument rien. Surtout que le commerce, il est vraiment mis en arrière, puisqu'on fait d'abord de l'échange de ce qu'on met en avant. D'abord, nous, c'est pas les produits, c'est les produits qui nous font avancer et organiser des événements culturels et festifs. Puisque, voilà, donc c'est vraiment comme quand on a une buvette dans un festival, c'est le côté commercial pour pouvoir payer un minimum les artistes qui viennent jouer pour les événements. Voilà, c'est un petit peu le cas. Je me retrouve bénévole à vendre des produits d'épicerie, d'épicerie fine sur les marchés. C'est pas pour le commerce que je le fais, c'est pour la démarche, quoi.
Et puis, vient la distribution hein, de vos importations. Comment s'opère-t-elle ? Est-ce que vous passez par un réseau en particulier ? Ou alors, est-ce que vous essayez de vous étendre aussi sur des points de distribution existants ?
Donc, on fonctionne par un système de précommande où les personnes, les adhérents en fait, de l'association, reçoivent un mail du voyage qui va venir et peuvent voir sur le site Open Distrib quels produits ils peuvent précommander. Et en fait, le marché, il y a une partie qui sera des précommandes, des personnes qui auront fait leur commande, et donc tout est déjà payé, ils repartent avec un prix un peu préférentiel. Et il y a le côté marché, où là, c'est quand même une démarche de faire un marché. Et donc c'est, les prix seront pour les gens qui ne sont pas encore adhérents un petit peu plus élevés. Voilà, c'est la manière de fonctionner pour pouvoir avoir le maximum de précommandes et donc de trésorerie aussi avant le voyage.
Vous établissez un avis d'importation ou d'arrivage de production. Comment les connaissez-vous par vous-même ? Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui vont voyager, justement, aller au-devant ? Ou alors c'est vraiment au cours de la croisière que se découvrent les productions ? Et comment, de là, vous pouvez communiquer sur ce qui va être importé ?
Tous les produits que l'on ramène, on les connaît parce que ce sont soit des produits qu'on a déjà ramenés ou alors qu'on avait prospecté avant de les ramener. Donc lors d'un voyage, par exemple, il y a le côté où on va chercher les produits, mais à côté on va prospecter aussi qu'est-ce qu'on pourrait ramener d'autre qui ait du sens, parce que l'idée c'est pas de ramener des choses inutiles. Par exemple des capres, on en fait très peu en France, donc on se dit on ramène des capres de Sicile ou de Sardaigne. Et les producteurs de capres, par exemple, ont aussi de la tomate séchée, on va en ramener. Donc quand on va chercher des produits, on fait de la prospection et ça nous permet aussi, nous, de rencontrer d'autres producteurs.
Et puis, vous avez déjà effectué des trajets, hein, vous en avez fait environ 7 depuis l'été 2020. Alors les pays sont la Sardaigne, la Tunisie, les Baléares, et puis la Corse, la Sicile. Voilà, et ce sont des pays pour l'instant sur lesquels vous avez vos points d'attache. Est-ce que vous parlez de Tunisie, est-ce que ça peut s'étendre, bien qu'aujourd'hui le contexte politique est un peu difficile dans certaines régions. Est-ce que d'ailleurs c'est un frein pour cette démarche?
C'est sûr que c'est plus facile d'opérer avec les pays de l'Union européenne pour tout ce qui est histoire administrative. Mais nous, le sens et l'origine du projet, il a été conçu aussi dans l'idée de relier cette flaque d'eau qu'est la Méditerranée et de ramener, on va dire, relier les terres qui de plus en plus coupées. Les chemins maritimes sont coupés. On voit ce qu'il arrive avec tout ce qui est tous les migrants qui viennent du Maghreb. C'est très compliqué d'aller là-bas. Et donc notre projet, il est aussi dans notre idée, à nous aussi d'aller là-bas et essayer de créer des ponts. Voilà, on crée des ponts au moins culturels. Y a une asymétrie quand même assez flagrante entre la personne qui peut aller d'Europe jusqu'en Afrique. Mais l'idée, c'est vraiment de relier ces pays, voilà, de dire qu'on est une seule terre avec une mer au milieu. Et puis voilà, y a la culture méditerranéenne, elle est commune. Et c'est ça qui est aussi défendu dans l'idée de faire ce projet-là en Méditerranée.
Bourlingue et Pacotille, c'est une initiative que vous avez opérée à plusieurs personnes, hein, avec 4 navires à l'heure actuelle qui transportent vers tous ces pays. Ce type de transport, est-ce qu'il en existe sur lequel vous vous êtes référé ?
Il existe beaucoup de transports à la voile en Atlantique avec des bateaux et des associations, même des entreprises qui sont très structurées. Ouais. Ça existe. Nous, vraiment, pour l'instant, on fait de la sensibilisation. On est à l'échelle vraiment minime jusqu'à ce qu'on puisse restaurer cette bourlingue-là, ce bateau, cette goélette de 20 mètres, 23 mètres. Pour l'instant, on est de l'ordre de la rencontre humaine, de la sensibilisation à la voile, même de la formation. Par exemple, nous, ce qu'on fait avec c'est vraiment une continuité de tout ce qui a été créé avec le collectif Festina Lente et de l'Armada. C'est rencontre, voilà, rencontre dans l'espace public, rencontre artistique. Et là, on a juste rajouté le côté culinaire. Et c'est vrai que quand on nous voit sur le marché à vendre nos produits, c'est un petit bout de l'iceberg, parce que l'association, ce qu'elle fait, elle le fait en mer, elle le fait avec les producteurs. Et on est et c'est ça, finalement, le sens de... Il ne se voit pas forcément sur un marché.
Ce navire, la Bourlingue, à l'heure actuelle en restauration, nécessite un investissement. Comment opérez-vous justement cette remise en état et l'aide financière qui le permette?
Alors pour l'instant, la Bourlingue, on est en train de changer de statut, donc de garder l'association pour tout ce qui est l'aspect culturel et de créer cette SIC pour pouvoir avoir les épaules et se structurer à faire venir des personnes qui ont les moyens d'investir dans ce projet-là. Donc ils pourront être sociétaires, ils pourront être aussi donateurs. On verra toutes les modalités, on va dire, pour qu'ils puissent... Pour rassembler les 250 000 euros minimum à trouver pour ce projet. C'est sûr que ce n'est pas avec les marchés que l'on fait actuellement qu'on va pouvoir le financer, mais ça nous permet en tout cas d'avoir de plus en plus d'expérience, parce que finalement on voit qu'il y a beaucoup de projets qui sont sur le papier et qui ne voient pas le jour. Et nous, on a pris un petit peu la courbe inverse, c'est-à-dire on y va et on regarde ce qu'on fait après, comment on le fait.
La possibilité de ce financement participatif, on peut le retrouver sur ce site, donc de bourlinguepacotis.com.
Voilà, bah là, on peut, je crois qu'il y a un lien qui est Hello Asso. Après, le seul fait de venir acheter 30 grammes de capre, voilà, cette démarche-là, elle suffit. J'ai envie de dire, pour l'instant, pour les personnes qui... On se met à la hauteur de tous. Après, ceux qui veulent s'investir et dans l'association et en tant qu'investisseur, financeur ou même, membre actif de l'association, elle est complètement ouverte. Tous ceux qui veulent naviguer, qui n'ont jamais navigué ou qui ont l'expérience peuvent venir, ouais, tout à fait.
D'ailleurs, ça sera le moment de votre présence, lors de votre présence au marché, d'échanger des paroles sur le sujet. Est-ce que d'ailleurs vous opérez d'autres prises de contact locales?
Alors, le fait d'être à Die sur le marché ce samedi 10 et le samedi 17, c'est tout simplement parce que moi j'habite ici depuis septembre. Voilà, je suis un nouvel arrivant, même si... ma famille est dans le coin. Je suis revenu justement du bord de mer pour et je me dis, bon, bah, je vais quand même ramener aussi les projets qui m'entourent et qui me tiennent à cœur. Et Bourlingue et Pacotis en fait partie. On a travaillé déjà avec l'épicerie Géniale qui est dans le Diwa, à Oust-sur-Scie, et qui eux nous prennent régulièrement quand on leur demande, on leur dit, bah, là, on a tant de capres, tant d'huile, est-ce que ça vous intéresse? Ils sont toujours partants. Il y a aussi les restaurateurs qui peuvent aussi se fournir, puisqu'on fait aussi des tarifs gros, demi-gros, c'est-à-dire il y a déjà le restaurant Les Petits Fourneaux, ouais, voilà, qui je leur ai amené des capres, ils sont intéressés. Donc si ça se trouve, ça va se diffuser. La seule manière après qu'on a envie de ramener ces produits-là, c'est de garder cette éthique de transport doux et donc de faire une espèce de pony express pour ramener tout ça depuis la mer, mais à vélo. Voilà, parce qu'on est tous sensibles à la bicyclette.
Dans le contexte de l'énergie à l'heure actuelle, qui traverse de grosses difficultés, est-ce que pour vous, vous avez une conviction de ce retour du transport par voile? Est-ce que ça tendrait pour vous, d'après vous, à se développer, ou même au niveau de l'association?
Clairement, c'est, on va dire, un secteur qui pourrait tout à fait être encore plus développé. Et on est entre guillemets des précurseurs dans ce milieu-là, en tout cas en Méditerranée. Mais on n'a pas pour l'instant, on n'a pas les épaules ni la vocation de vouloir aller choper les parts de marché, etc. Là, on est dans la sensibilisation, on est dans la découverte. Et vraiment, pour rester à taille humaine, c'est aussi quelque chose qu'on défend, c'est de ne pas être suffisant. De ne pas grossir au point d'exploser et de reproduire les mêmes erreurs. On est dans le small is beautiful à ce niveau-là, quoi.
comme vous disiez, plus le navire est gros, moins la marchandise est chère. Donc ça va à l'encontre de ce que vous faites. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes aussi à amener une certaine pédagogie en fonction du prix proposé pour le particulier qui veut se fournir chez vous, et de faire prendre conscience aussi du coût d'une marchandise pour faire comprendre son prix?
Ben disons que c'est moins la rentabilité est bonne. Après, la marchandise, elle ne sera pas forcément plus chère qu'ailleurs, même si c'est des prix qu'on ne retrouve pas dans les supermarchés discount. Ça, c'est sûr, c'est plus de l'épicerie fine. Mais ce qu'on défend, c'est sûr, c'est bien sûr, c'est la juste valeur des choses. Et on sait bien que l'alimentation, elle est complètement biaisée par les taxes européennes. Et c'est ça qui... en tout cas, l'alimentation, l'agriculture. Donc ça, on en a conscience. Là, nous, on essaie de se placer au niveau des prix du producteur. Après, on a, selon les milles parcourues, on a une base sur laquelle on peut défrayer un minimum le bateau. Voilà, sachant que c'est vraiment qu'un minimum. Et on reste associatif. Donc en ayant une échelle un petit peu plus grande, on pourra peut-être... se structurer et proposer des prix aussi moins chers, sachant que on ne vit encore actuellement d'aucune subvention.
À l'heure actuelle, vous vous êtes installé depuis septembre, donc est-ce que vous avez pris des contacts? Vous parliez de cette épicerie géniale à Oust. Est-ce qu'il y a d'autres prises de contact qui s'opèrent ou des désirs de travailler avec elle?
Alors, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un comptoir fixe, qu'on puisse avoir un lieu où on puisse proposer tout le temps nos produits. Parce que les marchés, c'est quand même assez contraignant. Il faut avoir une présence. On a tous des métiers, des familles à côté qui font qu'on n'est pas, amené à être bénévole sur les marchés. Donc, pour l'instant, c'est sûr que les autres personnes dans le DIY, je pense que c'est le marché qui permettra justement de nous mettre sur la place publique et de commencer à se faire connaître. Et s'il y a des personnes, des restaurants, des boutiques qui veulent les produits, bah avec plaisir. C'est sûr que ce sera le début, ce sera déjà cette démarche-là d'être présent sur la place du marché.
On peut parler de Festival Ente, ce collectif dont l'association Bourlingue et Pacotille est issu. Et on peut peut-être présenter ce qu'est ce collectif, et quelle est sa philosophie en quelque sorte.
La philosophie de Festival Ente, c'était de proposer des spectacles itinérants à la voile à travers la Méditerranée, même l'Atlantique. Et c'est là où est née aussi l'idée de transporter des marchandises, puisque d'un port à l'autre, il y avait des cabarets dînatoires où des repas étaient faits, puisque un des fondateurs de l'association est restaurateur aussi, donc cuisinier, il organisait des repas pour des centaines de personnes, donc c'était assez impressionnant, et puis c'était proposer un endroit où il n'y a rien, normalement sur les quais qui sont de plus en plus aseptisés, déserts et réservés à la plaisance, on va dire, la plaisance qui viennent juste pour quelques jours dans l'année, voir leur bateau. Ce milieu aussi des marinas, il est un petit peu dépopularisé, je trouve, c'était ça que défend l'association aussi, c'est ramener la vie sur les bords de quais. Voilà. Et donc, ramener la vie en amenant les spectacles, Festinal NT l'a proposé, ramener la vie dans des échanges, dans ces dîners-là, qui étaient quand même assez conséquents. Et bravo aussi à tous ces bénévoles qui ont réussi à monter ces cabarets. Moi, j'ai été... j'ai pas participé à Festival NT, j'étais à le festival d'avant qui était l'Armada. Et l'Armada, c'était la même chose, c'était vraiment ramener la vie dans l'espace public quand on pouvait, évidemment. Mais c'était dans cet esprit-là de c'est pas un combat, mais c'est, euh, c'est que vraiment on voit de plus en plus les marinas s'aseptiser, voilà. Et il n'y a que des gens friqués. La plaisance, la mer, elle devient réservée, on va dire, à une petite élite qui ont les moyens d'avoir leur bateau. Et après, il y a plein de manières. Nous, ce qu'on défend, c'est de montrer qu'il y a plein de manières de naviguer. Et on n'est pas besoin d'avoir le dernier catamaran qui coûte des centaines de milliers d'euros pour naviguer.
Une fois avec ces marchandises, vous arrivez donc sur ces ports de la côte méditerranéenne. Et à l'heure actuelle, quels sont les ports sur lesquels vous vous arrimez ?
Alors, selon les personnes qui nous commandent ou les restaurateurs, des fois on a livré à des hôtels justement sur le bord de la côte entre Saint-Tropez et Sète, on va dire. On arrive à aller dans les ports qui nous commandent des marchandises. Pour l'instant, c'est vraiment d'adhérent à adhérent. Donc, c'est-à-dire, la plupart du temps, c'est Marseille. Voilà, l'association est basée à Marseille. Et le bateau était souvent à 7. Donc voilà, on a pas mal de réseaux à cet endroit-là. Et après, c'est vraiment du réseau de copains. Et on espère que ça va s'amplifier et s'étendre.
Et puis pour finir, il y a aussi cet aspect de la voie fluviale, puisqu'il y a une péniche qui remonte aussi les productions à Lyon, Toulouse, Bordeaux.
Paris,
donc ça, c'est aussi un développement pour vous qui pourrait progresser.
C'est sûr qu'il y a sur les fleuves, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées et qui veulent défendre aussi le transport maritime, qui pour bien des raisons est cohérent écologiquement et dans la même idée de la lenteur et de la...
Et toujours à voile.
Et là, pour le coup, ce ne sera pas à voile, non. Là le fleuve, c'est déjà des péniches qui défendent des fois d'autres manières de se déplacer, avec des moteurs à hydrogène aussi, des choses, des gens qui expérimentent des choses. Et voilà, c'est aussi gardé, pour ce qui est du canal du Midi, par exemple, c'est plus de l'ordre du patrimoine. Après, c'est... En tant que gens de la mer, on se retrouve sur l'eau aux embouchures et on échange les marchandises. Ah, toi, t'as ça dans tes cales, toi, t'as ça. Ben, et on fait des événements ensemble aussi, puisque les péniches, ça peut accueillir des fois des spectacles couverts. Donc on est dans tout ce qui flotte, on va dire. On a tendance à se retrouver.
Eh bien, voilà, on a fait un tour rapide, je dirais. Hein. On peut découvrir aussi encore plus d'informations sur le site bourlinguetpacotille.com. Et puis, pour cette venue sur le marché d'Udi, des 10 et 17 décembre, on pourra y trouver donc toute cette production issue de la Méditerranée, de la Corse. Et il y aura peut-être moyen de goûter aussi.
Bien sûr, il y aura moyen de goûter. Principalement, il y aura de capres, tomates séchées, miel, vin, voilà. Et huile d'olive aussi. Pour l'instant, on reste dans les produits qui sont pas périssables et qu'on peut transporter facilement. Et puis après, l'idée, c'est surtout l'échange, la rencontre et préparer le prochain voyage. Donc, il y aura lieu en Corse en avril. Voilà, fin mars, pardon.
Mathieu Mounier, je te remercie d'être venu nous parler de cette association Bourlingue et Pacotille avec le commerce à voile, transport à la voile, du commerce équitable et bio également. Et puis, peut-être pour finir l'émission, un petit morceau de musique encore.
Alors, petit morceau de musique, on peut les retrouver, oui, de toutes les personnes qui sont venues à bord. Par exemple, il y avait le saxophoniste de l'Orchestre en Carton, Camille Sechpet, qui travaille aussi avec Surnatural Orchestra. Donc ils ont, on a animé les bords les quais de Calvi avec son saxophone et aussi la guitare de François Boutibou, des artistes qui viennent nous épauler et profiter de la navigation et de l'aventure.
Eh bien, au revoir.
Au revoir, à bientôt.